Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la sainteté. Nous arrivons à l'étude numéro 5 et notre titre sera « La possibilité de la sainteté ». Mais auparavant, avant de poursuivre cette série, j'aimerais juste dire que, à mon grand âge, je ne désire surtout pas me chicaner avec qui que ce soit. Oh non! Et il est un fait que beaucoup de chrétiens pensent que ceux qui sont sauvés, c'est Dieu qui l'a décidé pour eux depuis l'éternité. Donc, toute évangélisation, travail missionnaire, ça ne sert absolument à rien. J'ai lu un jour dans un très vieux livre que dans les derniers temps, même si une personne reconnaîtrait Jésus-Christ pour son Sauveur et Seigneur, serait sauvée. In the old-fashioned book, the Holy Bible. J'ai fait une importante série d'études sur la démonologie, internet www.bibleexplique.ch. Je ne possède pas internet, mais je travaille pour internet à mon très grand âge. Donc, je sais que environ 80% des chrétiens pensent qu'un chrétien ne peut jamais, en aucun cas, avoir un problème de démonologie. Jamais. Je ne vais pas me chicaner avec ça. Mais pas du tout, ça vaut pas la peine. On a le droit de penser l'une chose ou l'autre, tout dépend aussi des expériences qu'on a fait soi-même, surtout soi-même. Et là, si vous pouvez un jour écouter mon témoignage, et ça doit se trouver sur Internet, vous comprendrez mieux. Mais actuellement, aujourd'hui, hein, il y a la personne qui partage l'appartement avec la pasteur Sabina Reichenbach. Elle s'appelle Evelyne comme prénom, je ne me rappelle pas du nom. Eh bien, cette personne, elle reconnaît qu'elle a eu, tout en ayant été darbiste pendant des années, donc qu'elle a eu un démon. Évidemment, c'est pas moi qui l'a décelé, c'est un homme de Dieu dans son entourage. Donc, dans l'étude d'aujourd'hui, il y a aussi environ 80% de chrétiens qui pensent qu'un péché mineur par rapport à un péché grave, c'est absolument pareil. J'essaie maladroitement de démontrer que cela pourrait peut-être pas être 100% vrai. À voir, à réfléchir, à analyser. Car si j'ai tort, eh bien, je dois demander pardon au Seigneur, ainsi qu'à vous. Je dois demander très sérieusement pardon, ça va sans dire. Notez que j'ai remarqué, hélas, et c'est vrai, et que je peux même commettre, je me suis aperçu de cela, commettre des péchés en pensée. Et croyez-moi que j'ai honte de vous avouer cela aujourd'hui. Mais cela m'est déjà arrivé de commettre un ou des péchés en pensée. Il est vrai que j'ai dû demander pardon au Seigneur, c'est clair, évidemment. Du reste, nous ne sommes pas parfaits, moi le premier, et je ne sais pas tout. Ceux qui pensent autrement peuvent aussi avoir raison, bien entendu. L'essentiel, c'est que nous puissions nous entendre sur ce qui concerne le salut. C'est quand même l'essentiel. Donc, aujourd'hui, le titre sera « La possibilité de la sainteté ». Chers amis, personne n'est parfait, et moi le premier. Si vous voulez que notre poursuite de la sainteté soit caractérisée par la passion, la première chose à clarifier, c'est que la sainteté est vraiment possible. Il peut paraître humble de dire « Je ne peux pas obéir à Dieu, pas même pour une seconde dans ma vie. » Mais ce n'est pas forcément vrai. À mon avis, c'est même faux. Agir comme si la sainteté était inatteignable pour les chrétiens ordinaires, à mon avis, cela déshonore la manière dont la Sainte Bible parle de personnes comme Zacharie, Élisabeth et Ruth, qui tous étaient justes devant Dieu. Et en plus observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Saint Luc chapitre 1 verset 6. C'est mépriser les éloges du Seigneur à l'égard de Job, car Dieu a dit « Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Job chapitre 1 verset 8. Sans parler de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui fait souvent l'éloge de ses églises et de ses compagnons de ministère pour leur obéissance. Et oui, il est trouvé très obéissant et pour leur conduite exemplaire. Eh bien, cela donne à penser qu'il est peut-être quand même possible pour les enfants de Dieu d'être saints, pas forcément aussi parfaits que Jésus. Ça, c'est évident. De même, Jésus enseigne que le sage entend ses paroles et qu'il les met en pratique. Saint Matthieu chapitre 7, verset 24. L'apôtre Jacques dit la même chose dans Jacques chapitre 2, versets 22 à 25. Donc, rien ne laisse croire que ceux qui mettent en pratique la sainte parole de Dieu font partie d'une classe hypothétique bien à part. Au contraire, nous avons le mandat de faire de toutes les nations des disciples et de leur enseigner à obéir à tout ce que Jésus a prescrit. Saint Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Dieu s'attend donc à ce que la vie du chrétien soit marquée par les vertus telles l'amour, la joie et la paix. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Plutôt que par l'immoralité sexuelle, par l'idolâtrie, par le vol et la convoitise. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Le chrétien ne doit plus transgresser la loi, selon la première épître de Saint Jean chapitre 3, verset 4. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 10. Dieu s'attend donc à ce que nous soyons saints et nous fait la grâce de pouvoir l'être, de pouvoir le devenir. Après tout, il nous a créés pour de bonnes œuvres, selon Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Et il produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens, chapitre 2, verset 13. Donc les chrétiens peuvent être riches en bonnes œuvres. 1 Timothée, chapitre 6, verset 18, et Actes, chapitre 9, verset 36. Nous pouvons marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Nous pouvons nous exercer à vivre d'une manière sainte et agréable à Dieu, selon Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Chers amis, si la Sainte Bible déclare que la sainteté est vraiment possible, pourquoi trouvons-nous si difficile de pouvoir y croire? La principale raison, c'est probablement que nous considérons l'obéissance au même titre que la perfection. À vrai dire, si mener une vie digne signifie ne jamais, jamais perdre patience, ne jamais convoiter, ne jamais être paresseux, et toujours faire le bien de façon désintéressée, absolue, eh bien, c'est évident. Dans ce cas-là, qu'il semble impossible d'être saint. De même, si la sainteté qui plaît à Dieu exige que je sois rempli à ras-bord de toutes les vertus de sorte qu'aucune amélioration est nécessaire, eh bien je perds mon temps à essayer d'être saint. Or la sainteté, elle ne consiste pas à exiger la perfection absolue, la perfection de nous-mêmes ou des autres. Avez-vous parfois l'impression qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour obéir à Dieu? J'ai toujours cette impression-là. Les commandements à propos des choses à ne pas faire, cela ne me gêne pas. Il semble tout à fait raisonnable et je n'ai pas à réserver une partie de ma journée pour ne pas tuer quelqu'un. Les commandements qui m'ennuient sont plutôt ceux qui exigent d'être un bon papa, une bonne maman, un mari remarquable, un incroyable combattant dans la prière, un évangéliste extraordinaire et un activiste dévoué, vraiment dévoué au sein de la communauté, au sein de l'Église. Cependant, Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons les meilleurs en tout pour peut-être être libéré de ce sentiment de culpabilité paralysant. Ce qui compte, comme nous l'avons vu, c'est que nous projetons l'image de Jésus-Christ. C'est merveilleux, direz-vous, mais as-tu vu de quoi j'ai l'air? Je suis loin d'être sans reproche. Je comprends car je vis la même chose. Il n'y a donc pas un seul jour où je me suis senti suffisamment gentil, suffisamment joyeux ou aimant. Le jour où j'aurai le sentiment d'avoir accompli toutes ces choses en une seule journée, ça sera sans doute un indice que je suis déjà au ciel. Avez-vous compris? Eh bien, cela dit, Dieu ne s'attend donc pas à ce que nos œuvres soient absolument parfaites pour être considérées comme étant bonnes. Si Dieu n'acceptait que des actes d'obéissance absolument sans faille de la part de ses enfants, eh bien la Sainte Bible n'aurait rien d'intéressant à nous apprendre au sujet de Job, de David, d'Élisabeth et de Ruth, ou de qui que ce soit à part Jésus. J'aime ce que exprime la confession de Westminster au sujet des bonnes œuvres. D'une part, la sanctification ne nous permettrait jamais d'atteindre la perfection dans cette vie. Il subsistera donc toujours un relent de corruption en nous, malheureusement. Néanmoins, par la puissance de l'Esprit-Saint qui nous sanctifie, les véritables croyants grandiront tout de même dans la grâce. Nos bonnes œuvres sont donc acceptées par Dieu, non pas parce qu'elles sont irrépréhensibles et louables aux yeux de Dieu, mais parce qu'il plaît à Dieu d'accepter ces actes d'obéissance qui sont absolument sincères au nom de Jésus, même s'ils mettent en évidence nos faiblesses et nos imperfections. Non seulement Dieu travaille à parfaire notre obéissance par sa grâce, mais c'est également par sa grâce que nous obéissons, et cela aussi imparfait que nous sommes. Même le plus petit acte d'obéissance est vraiment digne d'être célébré. Peut-être avons-nous du mal à voir le bien en nous parce que nous ne comprenons pas à quel point nous étions mauvais. Votre minuscule vie spirituelle peut sembler un peu moins négligeable lorsque vous considérez qu'elle provient d'un cœur qui était mort spirituellement. Il n'y a pas si longtemps que moi-même, j'étais mort spirituellement. Enfin, sur l'échelle humaine, il y a quand même un bon moment, puisque j'ai passé 90 ans. Que vous et moi ayons la volonté d'écouter et d'observer la loi, ça c'est un miracle qui provient de la grâce de Dieu. Beaucoup de chrétiens croient que leurs œuvres ne sont que des vêtements souillés. Après tout, c'est ce que Ésaïe, chapitre 64, verset 5, nous semble dire. Nos meilleures œuvres sont sales et sans valeur. Eh bien, je doute que ce soit vraiment, vraiment ce que Ésaïe voulait dire. La justice que Ésaïe avait en tête, elle fait référence au rituel superficiel du peuple d'Israël, dont la foi n'était pas sincère et dont les actes d'obéissance étaient faits à contre-cœur. Dans Ésaïe, chapitre 65, versets 1 à 7, l'Éternel rejette leur sacrifice empreint de péché. Ces sacrifices sont donc une insulte à Dieu, sont de la fumée dans ses narines, tout comme le rituel d'obéissance dans Ésaïe chapitre 58 n'avait pas impressionné le Seigneur, car le peuple écrasait les démunis. Donc leur justice était comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 5. Pourquoi ? Parce qu'elle était tout à fait injuste. Leur apparence était trompeuse. C'était un écran de fumée qui couvrait littéralement leur incrédulité et leur désobéissance. Nous ne devrions toutefois pas penser que toute bonne œuvre est un vêtement souillé devant Dieu. En effet, le verset qui précède Ésaïe 64, verset 4, nous dit « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et qui se souviennent de toi. » Il n'est donc pas possible, ou plutôt il est pas impossible pour le peuple de Dieu de pratiquer des œuvres vertueuses qui vraiment peuvent plaire à Dieu. Parfois, les gens ne font pas attention à ce qu'ils disent et ils méprisent ouvertement tout le bien dont l'homme est vraiment tout de même capable, comme s'il n'y avait absolument rien qui puisse plaire à Dieu. Ils étaient souvent en train de citer Ésaïe chapitre 64, verset 5, qui nous déclare que notre justice est comme un vêtement souillé. D'accord, il est vrai et glorieusement vrai que nul, ni avant ni après la croix, ne serait accepté par un Dieu impeccablement saint si la justice absolument parfaite de Jésus-Christ ne nous était pas imputée. Notez Romains chapitre 5, verset 18, non 19, et 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Je répète parce que c'est important. Il est vrai, il est glorieusement vrai, que nul, ni avant ni après la croix, ne serait accepté par un Dieu impeccablement saint si la justice parfaite de quelqu'un d'exceptionnel, si la justice parfaite de Jésus-Christ ne nous était pas imputée. Romains 5, verset 19, 1 Corinthiens 1, verset 30, 2 Corinthiens 5, verset 21. Toutefois, cela ne veut pas dire que Dieu ne produit pas chez les personnes justifiées avant et après la croix une justice acquise qui n'est pas un vêtement souillé. En effet, il le fait. Et cette justice est précieuse et elle est nécessaire aux yeux de Dieu, non pas pour notre justification qui dépend seulement de Jésus-Christ, mais comme l'évidence que nous sommes des enfants de Dieu réellement justifiés. Répétons cela. En effet, Dieu le fait. Et cette justice, elle est précieuse, elle est nécessaire aux yeux de Dieu, non pas pour notre justification qui dépend seulement de Jésus-Christ, mais comme l'évidence que nous sommes des enfants de Dieu réellement justifiés. gloire à Dieu. Il est donc risqué de ne tenir aucun compte du fait que la Sainte Bible exprime la possibilité et le devoir d'être vertueux. Bien entendu, nos bonnes œuvres ne peuvent pas apaiser la colère de Dieu. Nous avons besoin de la justice de Jésus. De plus, nous ne pouvons produire ou reproduire la vertu par nos propres forces. Et non. Cependant, en tant que croyant né de nouveau, il est tout de même possible de plaire à Dieu par sa grâce. Ceux qui portent du fruit dans chacune de leurs œuvres et qui accroissent leur connaissance de Dieu lui sont donc agréables. Colossiens 1, verset 10. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, cela plaît à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. Prendre soin de votre frère et de votre sœur, cela plaît à Dieu. Chapitre 14, verset 18 de Romains. Obéir à vos parents, cela plaît à Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 20. Enseigner la sainte parole dans la vérité, cela plaît à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Prier pour les autorités en place, cela plaît à Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 et 3. Aidez les membres de votre famille qui sont dans le besoin, cela plaît à Dieu. Chapitre 5 de 1 Timothée, verset 4. Donnez avec générosité, cela plaît à Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 16. Observez ces commandements, cela plaît à Dieu. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 22. Au fond, dès que vous faites confiance absolue à Dieu et que vous lui obéissez, eh bien vous lui plaisez. Nous avons donc tendance à croire que considérer tout ce que nous faisons comme étant moralement douteux et comme étant un signe de sensibilité spirituelle. Ce n'est pas ce que exprime vraiment la Sainte Bible au sujet de ce qui est vertueux. Ce type de résignation spirituelle ne dit pas la vérité à propos de Dieu. A.W. Tozer, un éminent homme de Dieu qui a fait des commentaires bibliques et des livres fabuleux pour nous aider à mieux comprendre, eh bien, Tozer, le grand homme de Dieu, a raison quand il dit « Même aujourd'hui, avec une mauvaise compréhension de Dieu, les bons chrétiens se vouent à une vie de frustration. La vie chrétienne est considérée comme étant morne sous le regard d'un Père, Dieu le Père, absolument sévère, qui a des attentes bien trop élevées et surtout aucun pardon. Il est austère, il est parfois même grincheux et totalement imprévisible, comme un certain Donald Trump. Et il est extrêmement difficile de lui plaire. Or, cette description ne correspond absolument pas au Dieu de la Sainte Bible. Notre Dieu à nous n'est pas un capricieux marchand d'esclaves. Pas du tout. Il n'est pas hypersensible. Il n'est ni enclin à se mettre en colère à la moindre offense. Bien au contraire. Il est lent à la colère et riche en bonté. Exode, chapitre 34, verset 6. Il n'est donc pas difficile de lui plaire, nous rappelle le grand homme de Dieu que j'ai cité d'Auxerre, bien qu'il puisse être assez difficile parfois de le satisfaire. Pourquoi imaginons-nous Dieu comme étant si froid à nos tentatives d'obéissance sincère? Après tout, il est notre Papa céleste. Quel genre de père reçoit la carte que sa fille a fabriquée pour son anniversaire et qui se plaindrait du choix des couleurs? Quelle maman dit à son fils qui n'a pas très bien rangé les pots de peinture, après pourtant avoir fait de bon gré tout le ménage du garage? René, ton travail ne vaut absolument rien. Eh bien, quel genre de parent soupire d'exaspération lorsque son enfant tombe et se casse la figure en vélo? Aucune justice ne nous justifie devant Dieu si ce n'est la justice de Jésus-Christ. Je répète, aucune justice ne nous justifie devant Dieu si ce n'est la justice de Jésus-Christ. Cependant, les bonnes œuvres de ceux qui ont été rendus justes devant Dieu par la grâce seule, au moyen de la foi, et qui ont par conséquent été adoptés dans la famille de Dieu, ne sont pas seulement dépourvues de souillures, elles sont extrêmement douces, elles sont extrêmement précieuses et totalement agréables aux yeux de Dieu. Il y a deux autres choses au sujet de la sanctification que nous devons clarifier dans ce CD. La première, c'est la fausse notion que chaque péché est absolument égal aux yeux de Dieu. Ce sentiment est très répandu parmi les chrétiens. Plus de 80% pensent que c'est ainsi. Pour certains, c'est l'indicateur d'une véritable humilité. Je mérite moi aussi la colère de Dieu. Comment pourrais-je juger tes erreurs à toi? Pour d'autres, c'est une façon d'éviter les coups qu'il s'attire en parlant contre certains péchés. Oui, je crois par exemple que l'homosexualité est un véritable péché. Mais ce péché n'est pas du tout plus grave qu'un tout petit péché. Et pour d'autres encore, c'est simplement une forme plutôt douce de relativiser. Ceux qui habitent des maisons de verre, à mon avis, ne devraient pas s'amuser à lancer des pierres sur ces maisons en verre. Je pense pas. Tels de très nombreux adeptes populaires, que celui voulant que tous les péchés soient totalement égaux devant Dieu n'est pas entièrement faux. Car je reconnais que chaque péché est une faille devant Dieu. Et ça ne peut pas lui plaire. Jacques chapitre 2 verset 10. Ainsi tout péché commis contre un Dieu éternel mérite d'être puni. Nous sommes donc tous nés pécheurs. Ça c'est une réalité. Nous péchons tous, moi le premier. Donc, chaque péché mérite la mort. Or, l'idée de la graduation, voyez, une graduation comme le thermomètre, comme une échelle, l'idée de la graduation du péché est importante pour nous aider à comprendre la différence entre le péché et le péché très grave. Chaque péché est donc une offense contre Dieu et nécessite le pardon. Absolument d'accord. Mais maintenant, voyons, la Sainte Bible enseigne que certains péchés peuvent être pires que d'autres. Dieu a tout de même attendu 400 années avant de donner la terre promise aux Israélites, parce que l'iniquité des Araméens n'était pas encore à son comble. Genèse chapitre 15, verset 16. Ils étaient des pécheurs depuis le début, mais à un certain point, leur péché méritait une punition absolument radicale. La loi de Moïse prescrit différentes pénalités pour différentes infractions et exige différents sacrifices et différents paiements pour leur réparation. Par exemple, dans Nombre, livre des Nombres, au chapitre 15, reconnaît la différence entre les péchés non intentionnels et ceux qui sont commis la main levée. Laisser échapper un juron lorsque on se frappe le pouce avec le marteau, et j'en dis un maintenant, vous me pardonnerez, millions de sabords, ou c'est épouvantable. Ça, ce n'est pas très grave. C'est pas aussi grave, me semble-t-il, que commettre l'adultère. Bien que ni l'un ni l'autre peuvent être recommandés, évidemment. Évidemment. Voyez-vous, certains péchés dans l'histoire d'Israël étaient plus notoires que d'autres. Si l'on se fie à l'indignation du Seigneur, sacrifier par exemple des enfants à Moloch était sans doute beaucoup pire que de manquer de patience à leur égard. Jérémie chapitre 32, verset 35. Jésus laisse donc entendre que certaines personnes, c'est pas moi qui le dis, seront jugées plus sévèrement le jour du jugement, car ils avaient plus de raisons de croire. Saint Matthieu chapitre 10, verset 15. Nous serons donc tous jugés proportionnellement à la lumière que nous avons reçue. Je n'aimerais du reste, entre nous, pas être à la place de Hitler, ni du docteur Mengele et de toute sa clique. Même parmi les non-chrétiens, il existe une différence entre être une bonne personne et être une sale crapule. Voici donc le problème lorsque tous les péchés sont considérés comme absolument égaux, nous sommes beaucoup moins portés à nous battre contre certains d'entre eux. Pourquoi devrais-je m'abstenir de coucher avec ma copine alors que je la désire dans mon cœur de toute façon? Pourquoi rechercher la sainteté alors qu'un seul péché dans ma vie me rend aussi méchant que Hitler aux yeux de Dieu? Encore une fois, il peut sembler être très humble d'agir comme s'il n'y avait pas de péché pire que d'autres. Toutefois, lorsque nous dévalons la pente de l'équivalence morale, eh bien nous freinons l'élan qui nous pousse à faire de notre mieux et nous compromettons notre aptitude à nous rendre redevables les uns aux autres. Et brusquement, l'ancien qui lui, je dis l'ancien d'une communauté chrétienne, qui lui lutte contre la tentation d'examiner de beaucoup plus près certaines pages d'un certain catalogue plus ou moins défendu, il ne devrait pas avoir le droit, à mon avis, de discipliner un jeune homme de l'Église qui se livre corps et âme à la fornication. À réfléchir. Ainsi, lorsque nous ne parvenons plus à discerner les gradations qui existent entre différents péchés, différents pécheurs et différentes nations pécheresses, comme la Corée du Nord, nous ne respectons pas notre propre méchanceté et nous amoindrissons ainsi la bonté de Dieu. Si notre propre système judiciaire ne gère pas toutes les infractions de la même façon, Dieu sait assurément que certains péchés sont plus odieux que d'autres. Si nous pouvons voir la différence, eh bien nous nous empresserons d'autant plus à éliminer les péchés qui sont les plus offensants aux yeux de Dieu. Mais encore une fois, ne nous chicanons pas pour ces petites choses qui sont au fond pas importants pour notre salut. La deuxième chose à clarifier consiste à savoir si les croyants pardonnés, justifiés, réconciliés, adoptés et nés de nouveau peuvent ou non déplaire éventuellement à Dieu. Eh bien, la logique semble implacable. Je suis revêtu de la justice de Jésus-Christ. Rien ne peut donc me séparer de l'amour de Dieu mon Père. Ainsi, quoi que je fasse, Dieu me voit comme étant son enfant pur et sans tache. Il est vrai qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Romains chapitre 8 verset 1. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ignore notre conduite et toutes nos pensées. Je dis cela pour moi. Bien que en Jésus-Christ, il ferme les yeux sur nos péchés au sens judiciaire, il n'est pas du tout aveugle pour autant. L'Écriture sainte exprime clairement que Dieu est mécontent lorsque son peuple pêche. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit de Dieu, selon Éphésiens chapitre 4, verset 30. Même si Dieu est toujours pour nous en Jésus-Christ, selon Romains chapitre 8, verset 31 à 34, Jésus-Christ peut toujours avoir quelque chose contre nous. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Le fait que Dieu discipline ses enfants, selon Hébreux chapitre 12, verset 7, cela signifie qu'il peut parfois être mécontent de notre conduite. Il y a toujours un revers à cette médaille. Le fait que Dieu discipline ses enfants, cela signifie qu'il nous aime. Il nous aime assez. Oui, il nous aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'il essaye parfois de nous corriger, de nous tirer une oreille. Il l'a fait à moi parce que je l'avais vraiment mérité. Si Dieu ne remarquait jamais nos péchés, eh bien, il ne ferait jamais de disciples. C'est-à-dire, il ne ferait jamais de discipline, pardonnez-moi. Et si Dieu ne nous disciplinait jamais, eh bien, nous serions des enfants, soi-disant, carrément illégitimes, et non pas ces enfants véritables. Verset 8 de Hébreux chapitre 12. Voyez-vous, la distinction théologique qui suit sera peut-être très utile. C'est-à-dire, par la foi, nous sommes attachés et nous sommes unis à Jésus-Christ. Ce lien est absolument indestructible. Cette union est un fait établi, garanti pour toute l'éternité par l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque nous péchons, notre union avec Jésus n'est pas compromise. C'est notre communion qui est en péril. Il est donc possible, pour les croyants que nous sommes, de s'attirer une plus grande ou une moins grande faveur de la part de notre Papa céleste. Il est possible pour nous d'expérimenter une douce communion avec Dieu, comme il est possible d'expérimenter un froncement de sourcils de sa part, non pas en guise de jugement terrible, mais en guise de rappel, pour nous inciter à faire mieux. Hébreux chapitre 12, verset 24. Voyez-vous, jusqu'à maintenant, le Seigneur vous a peut-être encouragé à poursuivre la sainteté qui vous semble tellement parfois impossible, mais maintenant que vous avez compris, elle devient pour vous possible. Alléluia. Vous avez été soulagé d'apprendre que plusieurs de vos bonnes œuvres ne sont pas absolument des vêtements souillés à jeter. Cependant, vous voilà déprimé à nouveau, vous voilà inquiet. que toute votre vie justifiée ne soit qu'une source de déception pour Dieu. Je ne veux pas vous laisser, non, 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 je ne veux pas vous laisser dans cet état de découragement. Il est peut-être bien de se sentir coupable, mais jamais abattu. Oui, il est possible d'attrister le Saint-Esprit. On l'a dit, Éphésiens 4, verset 30. Mais l'état normal du chrétien devrait plutôt tourner autour de la grâce et de la reconnaissance envers la faveur de Dieu, laquelle se distingue de la santé, de l'abondance et même de la prospérité. Je cite souvent les puritains, puisque, voyez-vous, ils sont quand même un exemple très puissant dans la recherche de la sainteté. À la fin de la deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul met les lecteurs au défi. Il leur dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » 2 Corinthiens 13, verset 5. Un bon nombre d'entre nous perçoivent donc cette exhortation comme étant un avertissement à évaluer s'ils sont ou si nous sommes de véritables croyants. Cela va sans dire que certains en ont bien besoin. Mais remarquez ce que dit l'apôtre Paul ensuite. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous par le Saint-Esprit. Sachez que les prétendus super-apôtres intimidaient l'apôtre Paul, racontant aux Corinthiens qu'ils étaient un ouvrier inadéquat. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 15. Et pour sa défense, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens de s'examiner eux-mêmes. Mes compagnons, je suis votre ouvrier, oui ou non? Vous êtes, c'est ce que dit l'apôtre Paul, vous êtes des chrétiens, oui ou non? Alors examinez-vous et vous verrez que vous êtes dans la foi et que je suis fidèle. L'apôtre Paul a mis les Corinthiens au défi de s'examiner eux-mêmes, car ils savaient qu'ils passeraient les tests. Alléluia. Quel est le secret d'une telle liberté? L'apôtre Paul ne fait pas appel à la force des pensées positives. Il ne fait pas du yoga. S'il se sent bien, ce n'est pas non plus parce qu'il y a un Dieu qui ne juge pas, mais bien au contraire. La raison pour laquelle l'apôtre Paul est aussi confiant, c'est directement lié à sa nature. Et de façon générale, la sainteté est donc son mode de vie. En tant qu'homme saint, il s'entend très bien avec Dieu son Père. Je crois que c'est ce que 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13 exprime par qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Et cela, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Donc, l'apôtre Paul ne parle pas ici d'une sainteté positionnelle, mais d'une sainteté progressive. Et c'est pourquoi 1 Thessaloniciens 3, verset 12, dit que le Seigneur fait croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Les enfants de Dieu ne seront jamais aussi parfaitement saints que Jésus l'est, évidemment. Mais nous devrions quand même être saints. Les chrétiens devraient donc afficher une tendance constante vers l'obéissance, de même que le réflexe de se tourner vers Dieu pour être simplement lavé, nettoyé, lorsque ils désobéissent, lavé par le sang de Jésus. C'est ainsi, oui, que nous pouvons être sans reproche dans la sainteté et avoir la même confiance dont jouissait notre apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 4. Pour terminer notre étude d'aujourd'hui, la Sainte Bible enseigne très clairement qu'il est donc possible de être saint. Je n'ai pas dit parfait comme Jésus, je n'ai pas dit ça. C'est une bonne nouvelle tout de même et non pas une mauvaise. Vous avez donc le droit d'apercevoir les signes de la grâce dans votre vie. Vous pouvez et vous devez être obéissant. Vous ne serez jamais parfait dans cette vie, et moi non plus. Vous ne pouvez rien faire pour gagner l'amour de Dieu. Cependant, en tant qu'enfant racheté et régénéré, vous n'avez pas forcément à être des échecs spirituels. Grâce à la miséricorde de Dieu, notre Papa céleste, vous pouvez offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12, verset 1. Amen. Et chers amis, maintenant, nous allons prier ensemble. Et j'aimerais quand même vous dire, rappelez-vous que Dieu vous aime. N'oubliez jamais cela. Et il est de mon devoir de vous aimer de tout mon cœur. Et maintenant, je vous embrasse tous, que vous soyez au loin ou tout près. Et je vous dis, soyez bénis, bénis en Dieu, en Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit. Et soyez-le pour le reste de votre vie. Je le souhaite. Prions donc maintenant, si vous voulez bien. Prions. Seigneur, tu as créé l'homme pour qu'il soit immortel et tu l'as fait à l'image de ta propre éternité. Cependant, nous oublions souvent la gloire de notre héritage et nous nous égarons hors du sentier qui mène à la justice, recueillant les fruits amers de nos erreurs. Mais toi, Seigneur, tu nous as créés pour toi-même et nos cœurs ne trouvent la paix véritable que en toi. Jette un regard de compassion sur toutes nos faiblesses et pardonne toutes nos fautes afin que l'éclat de la lumière éternelle nous remplisse et que nous devenions le miroir immaculé de ta présence et l'image de ta perfection. Que le Dieu Tout-Puissant ait compassion de nous, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, nous accorde le pardon et la rémission de nos péchés. Aujourd'hui, qu'ai-je fait pour les miens? Qu'ai-je fait pour le royaume? Aujourd'hui, qu'ai-je appris par la vie et par la prière? Aujourd'hui, ai-je servi Jésus dans la personne des souffrants? Aujourd'hui, ai-je contristé l'Esprit Saint de vérité, de pureté et d'humilité et de charité? Ô Seigneur, je me soumets et je soumets tout ce qui me concerne à ta sainteté et à ta justice. Amen. Et maintenant, j'aimerais vous mettre quelques chants d'un assez lointain passé. Figurez-vous, 1954, j'étais un tout jeune homme quand j'avais enregistré cela sur bande avec un Revox et un Agra. Évidemment, vous l'avez compris, en transférant tout cela avec le temps, d'abord sur des cassettes, ensuite sur des CD, ça perd parfois de sa netteté, et même parfois, il peut y avoir des ratés. C'est pas très drôle, mais j'espère que ça va fonctionner. Voyons. The mountains that are hindering you today, who can pick them up like pebbles, clear them from the way? Who can prove his power when a Christian kneels to pray? It is Jesus, he's the one. Jesus holds all power in his mighty hands divine. He's the one who heals the sick, turned water into wine. He makes all things possible, and he's a friend of mine. Blessed Jesus, he's the one. Who can heal the heartache that is crushing you within? Who can pour the balm of heaven where the hurt has been? Who can chase the shadows, make the songs of joy begin? It is Jesus, he's the one. Jesus holds all power in his mighty hands divine. He's the one who heals the sick, turned water into wine. He makes all things possible, and he's a friend of mine. Blessed Jesus, he's the one. Who can keep you from all harm and guide you by the hand? Who can give you power for service and the strength to stand? Who can give you grace for all that living may demand? It is Jesus, he's the one. Jesus holds all power in his mighty hands divine. He's the one who healed the sick, turned water into wine. He makes all things possible, and he's a friend of mine. Blessed Jesus, he's the one.
I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known my faithfulness, my faithfulness. With my mouth I will sing, I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. Sing of the Lord, forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord.
Of God became a man like us. He met people where they were, and one by one, he changed them. Bethlehem, he was born there. I believe, Galilee, Jesus walked there. I believe, Gethsemane, my Savior prayed there. On Calvary, he died alone, but the tomb Jesus left there. I believe, I believe, I believe, I believe. Bethlehem, he was born there. Galilee.